À voix nue, Laurent Goumin s'entretient avec Christine Angot. Podane ne connaissait rien. Elle habitait une petite ville du centre de la France et n'avait rien vu d'extraordinaire. Podane. Hier, Christine Angot, il était question de la naissance de l'écriture jusqu'à la publication en 1990 de Vue du ciel. Et vous parliez d'une arrivée, une petite histoire, mais sur laquelle on ne s'étendra pas, de l'arrivée de votre père à Nice. Moi, j'aurais aimé savoir quel était le rapport de votre père à l'écriture, notamment, par exemple, à la publication du premier roman, Vue du ciel.
C'est lié à une histoire de clé, comme par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai publié le premier roman, Vue du ciel, j'ai cessé d'avoir les clés de l'appartement que mon père avait à Paris. Donc voilà. Et ça nous ramène à tout ce qu'on a dit déjà dans d'autres émissions. Qu'on me dit que je ne dois pas être là, que je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que plus...
Que vous forcez les serrures.
Voilà. C'est-à-dire que plus il devient visible que j'habite dans l'écriture, que j'habite dans la littérature, plus on me dit, ma vieille, tu sors de chez nous. Et tu gardes pas les clés. Faut que tu t'en ailles. Plus on trouve incongru et déplacé ma présence dans les lieux, dans les maisons, quoi. Dans les appartements. Donc, mon père, quand il a... Il était très heureux à l'idée que ça lui plaisait beaucoup, l'idée que j'écrive. Il avait même son idée sur la question. Et il m'avait même un jour dit, tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu fasses un truc à la manière de Robe Grillet, où tu racontes la relation d'un père et le père, la fille, l'inceste et tout ça, mais tu vois, un peu comme Robe Grillet, où on ne saurait pas si c'est vrai, pas vrai, nanana, etc. Un truc dans le genre. Bon. C'était pas du tout mon projet. Hein. Mais lui, il trouvait... Enfin, en tout cas, quand il a appris que j'étais carrément publié, que ça allait sortir, alors là, il a commencé à dire que j'existais. Alors que mon enfance, pendant toute mon enfance, ma naissance a été, il m'a parlé à personne, quoi. Il a dit à personne que j'étais née. Et après, quand lui a eu d'autres enfants...
Puisque votre père et votre mère n'étaient pas mariés.
Oui. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils ont eu une histoire d'amour. Et puis voilà, quoi. Comme des tonnes de gens Et ils ont fait un enfant, le souhaitant, apparemment. Même quand il a eu d'autres enfants, il leur a pas dit, quoi. Et puis là, avec la publication, il avait commencé à le dire. Et donc lui, il habitait Strasbourg, et il avait cet appartement à Paris, où j'aimais bien aller de temps en temps, quand il était vide, comme ça, pour passer un week-end. Et là, il y avait des rencontres avec l'éditeur, donc ça justifiait. Et puis, j'étais invitée pour une télé... par PPDA. Je me suis dit, ça y est, c'est génial, ce livre va marcher, sauf que ça a été la seule chose que j'ai eue. Mais bon, c'était bien quand même. Donc j'avais besoin de l'appartement. Et puis il n'arrêtait pas de me dire depuis plusieurs jours, mais alors, le livre n'est pas arrivé à Strasbourg, etc., où il est, tout ça. Je dis, ben, il va arriver. Et puis, mais de toute façon, alors, l'appartement, tu l'as du temps au temps, mais c'est formidable, et tout ça, non. Bon, j'en ai parlé au bureau et tout, hein. Et je lui ai téléphoné pour confirmer encore la venue à Paris, etc. Et il m'a dit, ce n'est pas possible. Et je lui ai dit, tu as lu mon livre? Il m'a dit, oui, c'est très bien. Et il a raccroché. Et j'ai plus jamais entendu parler de lui. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'il était mort. Et où j'avais appris aussi quelque temps avant qu'il avait un Alzheimer. Donc, alors, le rapport de mon père à ça, c'est les langues, la langue, la langue, la langue, la langue. Pas la langue, les langues, plein, des tonnes de langues. Et puis le globe terrestre, les voyages. Mais il y a quand même, enfin, c'est quand même un silence sur toutes ces émissions. Il y a un personnage.
On va y arriver.
Absent. Absent. Tu peux me relire la première phrase, Podan?
Podan ne connaissait rien. Elle habitait une petite ville du centre de la France et n'avait rien vu d'extraordinaire.
Bon.
C'est votre Podan, c'est la phrase d'ouverture de votre Podan.
Oui. Bon, déjà, là aussi, c'était... C'était à la troisième personne, puisque c'était Podan. Et c'est quand même étrange que j'ai accepté de m'appeler Podan. D'abord ça. Et ensuite... Voilà, donc une petite ville du centre de la France n'avait rien vu d'extraordinaire. Et je connaissais une seule chose, en fait. Je connaissais ma mère.
À Châteauroux.
C'est tout. Je connaissais ma mère à Châteauroux. C'était ça. Et... On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Je sais que ma mère a acheté Le Monde 2.
Qui est sorti il y a deux semaines.
Voilà. Et dedans, il y a quand même des choses, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même une petite précision, comme ça. Écrite. Mais écrite, mais pas dans un livre. Hein. Écrite dans un journal. Parce que les choses qu'on écrit dans les livres, effectivement, on ne les dit pas, alors que les choses qu'on écrit dans un journal, on les dit. Ça, c'est sûr. C'est de l'ordre de l'énonciation, hein, ce qu'on écrit dans un journal. Dans un livre, non. C'est complètement différent.
Dans cet entretien que vous accordiez au Monde 2, puisqu'il en est question, Christine Angot, les passages qui auraient dû donner la parole à votre mère, ou dont elle aurait pu vous parler, c'était lesquels?
Je dis... Que l'inceste, il a d'abord lieu avec la mère, toujours. Parce qu'on m'interroge sur Outro. C'est une histoire d'inceste direct, donc avec la mère, c'est-à-dire que c'est un inceste qui ne passe pas par le père, alors que évidemment que l'inceste passe. Il est toujours avec la mère, mais les trois quarts du temps. Enfin, même plus que les trois quarts du temps, presque toujours, il passe par le père. C'est-à-dire qu'il est effectué, il est pratiqué charnellement, physiquement, par le père. Mais c'est de toute façon l'inceste avec la mère. C'est comme ça. C'est comme ça l'inceste que ça marche. C'est tout. Il n'y a rien à... Il n'y a pas autre chose à en dire. Et donc, bon, à un moment donné, le journaliste me dit, mais alors, Outro, etc., vous dites que la lecture des journaux, vous avez trouvé insatisfaisant, etc. Et je lui dis, bah oui, parce que moi, je veux bien qu'on me dise que Outro, ça nous raconte la parole des enfants, et que du coup, comment est-ce qu'il faudrait pas modifier la loi sur ce sujet, et dire que la parole des enfants, voilà, comment est-ce qu'on peut... Et puis, alors, après, ça nous fait des tonnes de papiers dans les journaux sur comment ça se passe pour un enfant, quand il lui arrivait un truc comme ça, est-ce qu'il défend ses parents, qu'est-ce que c'est que le mensonge pour un enfant, qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que si, qu'est-ce que ça. Et puis des tonnes de trucs, mais qui n'ont strictement rien à voir. Parce que dans Outro, donc, qu'est-ce qu'il y a eu finalement? Il y a eu donc cette affaire d'inceste dans deux familles, avec un personnage principal qui est Myriam Delay, qui est la mère d'une des deux familles, et qui vraiment apparaît comme... celle qui, enfin, voilà, c'est celle qui occupe l'espace, quoi. C'est vraiment, c'est elle le personnage principal de tout ça. Bon. Et les enfants, et confirmés par elle, se mettent donc à accuser tout le monde et n'importe qui. Les voisins, le curé qui passe, enfin bon, etc. Tout le monde.
La société, en fait.
Exactement. Sauf que, et le juge Et le juge croit cette femme qui confirme. Croit les enfants, croit la femme qui confirme ce que, les accusations des enfants. Et alors là, on nous parle de... On nous dit que le juge est inexpérimenté. On nous dit que la justice devrait fonctionner avec plusieurs niveaux de vérification, je ne sais pas quoi. Comme si c'était ça le problème. Non, le problème c'est que le juge a été aspiré par ça, par cette accusation. Pourquoi ? Parce que finalement il s'est senti, lui, il a, d'une certaine manière, c'était là. Il a fini par reconnaître. Voilà, enfin on avait un juge intelligent. D'une certaine façon. Les premières fois qu'on avait un juge intelligent, on va le virer. Bon. On va le déclasser et il va finir je ne sais où sa carrière. La première fois qu'on avait un juge qui comprenait ce qui se passait. Mais lui aussi, finalement, rentrait dans la culpabilité de l'inceste. Et évidemment qu'il était avalé par ce que disait Myriam, et enfin un juge qui ne la laissait pas isolée dans sa monstruosité. Voilà. Enfin, un juge qui aérait la justice. La justice dont le principal souci est de désigner un coupable de façon à ce que tous les autres soient en paix dans une innocence complètement factice. Complètement. Bon. Et donc, voilà. Donc, moi, je parle un petit peu de tout ça dans le papier, dans le monde 2. Et puis, je dis. On n'a pas 36 solutions, où on rejette toujours la monstruosité sur sur les gens, sur le premier abruti qui passe, et voilà, là en l'occurrence Myriam Delay, où voilà, et qui sont des mères vraiment monstrueuses, ou autrement dit, un peu le raisonnement, toutes des putes sauf ma mère, hein. Ou alors, on sort de cette logique et on dit que, ben non, c'est pas toutes des putes sauf ma mère. Ma mère est comme les autres. Ma mère aussi, c'est Myriam. Ma mère et Myriam Delay, c'est le même combat. C'est exactement pareil. Bon. Et on prend conscience que nos mères, à nous, toutes nos mères, et c'est une très, très, très difficile lutte quand on est une mère pour... Voilà, pour essayer de s'éloigner un peu de cette tentation-là, que toutes nos mères sont des Myriam. Que la seule différence avec Myriam Delay, c'est que finalement, allez, elles sont arrêtées un tout petit peu avant. Un peu. C'est exactement le même chemin, et c'était le même but, au bout du chemin. Mais elles sont arrêtées un peu avant. C'est important. Mais si peu. Voilà ce que je disais dans le papier. Bon, ben voilà, je pense qu'elle l'a lu. Je pense qu'elle l'a lu. Je suis sûre qu'elle l'a lu. Je suis sûre qu'elle l'a lu.
Et vous attendiez une réaction ?
Ben, par exemple, quand elle a lu Les Désaxés, quand elle a lu tous mes livres, hein, mais de toute façon, mais par exemple Les Désaxés, où quand même, là, il y a quand même un peu... Enfin, y a quand même un peu des trucs qui pèsent, là, sur... sur la mère, il y a un petit truc qui pèse, quoi, dans le livre, par l'intermédiaire du personnage de Lopez, et aussi par l'intermédiaire des mères de l'homme et de la femme. On sent bien quelque chose qui, quand même, qui n'est pas franchement léger, quoi. Bon, ma mère m'a dit, écoute, je trouvais ce livre très beau. Voilà, on n'en a pas su plus. J'ai pas eu plus d'informations. Pas de détails, pas de rien, quoi. Ce que je comprends, à la fois. Mais donc, c'est vraiment un truc où il y a du faux dans là. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe, en fait. Ma mère est la seule personne de ma vie qui résiste à l'écriture. C'est-à-dire qui ne me quitte pas, qui continue de me voir. Après chaque livre. Quoi que je dise. Et là, le dernier truc, dans le monde 2, c'est... Hein ? On n'est pas dans les petits détails piquants, là. Hein ? comprenez, c'est très très... C'est une accusation très 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 profonde, hein. Même si, encore une fois, il n'est pas question de condamner elle-même si elle est dans ce, tout le monde est dans ce processus, elle y est forcément parce qu'elle y a été conduite. Bon. Mais, encore une fois, c'est pas de manière concrète et charnelle, d'une façon platonique, mais quand même. Donc, en fait, elle est la seule. Moi, je perds tout le monde. Je perds tout le monde. L'écriture me fait perdre tout le monde.
Vos amis?
Ben oui, tout le temps. Je veux dire, il y a des tas de...
Vos amours?
Oui. Il y a... Ouais, les uns après les autres, les gens s'éloignent. S'éloignent. Bientôt, la personne que je connaîtrai depuis le plus longtemps dans mon entourage sera mon éditeur. En dehors de ma mère. Donc, mon éditeur, parce que lui, bah, il est... Voilà. Il est avec le livre, forcément. Bon, Léonore, elle a tout compris depuis le début. Comme je disais tout à l'heure, elle est née dans les bras d'un écrivain. Bon. Donc, elle comprend le truc. Elle comprend le truc. Donc, j'en suis sûre. Elle comprend le truc, elle a beaucoup d'indulgence par rapport à... Enfin, je veux dire, quand... Je sais pas, la dernière fois, là, j'avais un moment où j'étais pas trop bien, j'étais... j'ai pas pu lui cacher que j'étais pas bien, je pleurais, etc. Et je lui dis, excuse-moi, etc. Et elle me dit, mais maman, elle me dit, je sais bien que t'es écrivain. Mais ça n'avait rien à voir, je pleurais pour un truc qui avait rien à voir. Mais pour elle, quand je pleure... C'est pas sa mère qui pleure, c'est un écrivain qui pleure. Mais sinon, tout le monde se casse, sauf ma mère. Et je me dis là, pourquoi finalement? Ben, pour une raison très simple, parce qu'elle fait, elle se débrouille pour que, pourtant ce qu'elle lit, elle le lit et elle me ment. Elle me ment. Elle me ment sur ce qu'elle lit. C'est la seule solution. Elle me ment. Elle me dit, j'ai trouvé ça très bien. Ou alors, elle fait comme si elle n'avait pas vu. Par exemple, le monde 2, elle ne m'en a pas parlé. D'habitude, j'ai un truc de 10 lignes dans un truc. Elle me dit, ah, on a vu, nanan, tout ça, c'est bien. Bon, ah non, j'ai pas eu de nouvelles. Rien. Rien du tout. Double page dans le monde 2, ou je sais pas quoi, ou quadruple, j'en sais rien. Et puis, double page dans le Figmag. Le même week-end, j'en ai pas entendu parler. Bizarre. Très bizarre. Donc, ma mère reste dans la course parce qu'elle fait comme si j'écrivais pas. Mais tous ceux qui s'aperçoivent que j'écrive s'en vont.
Comme votre père à la publication, donc, de Vue du Ciel. Surtout que sur...
Lui, au moins, il s'est aperçu que j'écrivais. Il a dit donc, t'auras plus les clés. Mais au moins, c'est très violent, c'est sûr. C'est sûr, c'est très violent. Mais au moins, il s'est aperçu que j'avais écrit. Au moins, il s'en est aperçu. Ma mère s'est pas aperçue que j'avais écrit. Elle s'en est pas aperçue. Puisqu'elle voit pas ce qu'il y a dedans, quoi. Elle me parle des trucs, mais voilà, comme ça. Comme si c'était juste un... Comme si c'était juste rien, quoi. Comme si ça impliquait rien. Ah, elle a fait comme si elle avait pas lu, quoi. Enfin, je veux dire, l'attitude de ma mère est la preuve d'une chose que j'ai toujours dite. À savoir, écrire ne sert à rien. À rien du tout. Ça, c'est tout. Le monde 2, elle n'a pas vu. Elle a acheté. Elle a acheté le Figmag aussi, le même week-end. Première fois qu'elle ne parle pas d'un papier. Franchement.
Parce que peut-être que dès le départ, et vous allez peut-être nous en parler, dès le départ, l'écriture ou la littérature n'est pas de son côté, mais plutôt du côté de votre père. Vous parliez des langues, vous parliez du globe terrestre. Je me souviens de la première exergue de Vue du ciel.
Oui. Remerciez-moi.
Vous remerciez la terre entière. Ensuite, il y a l'histoire du globe. Dans Pourquoi le Brésil, dans l'exergue aussi de Pourquoi le Brésil.
Oui, ça c'est la c'est comme ça que moi j'ai représenté mon père, c'était un globe terrestre. Mais non, l'écriture n'était pas du côté de mon père non plus, l'écriture... les langues étaient du côté de mon père, mais je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure je disais, je crois que c'est ça. Tout à l'heure je disais, Léonore, quand elle est née, elle est née dans les bras de sa mère et les bras de sa mère, c'était les bras d'un écrivain. Donc depuis le début, elle sait. En revanche, quand moi je suis née, ma mère, l'enfant qu'elle a eu dans les bras, elle n'a pas... Peut-être que c'était impossible à savoir, mais elle n'a pas su que c'était un écrivain, cet enfant. Et après, elle n'a pas cessé de dire plein de choses, plein de signes, plein de phrases. Par exemple, je disais toujours depuis que j'étais toute petite que je voulais partir de cette ville. Et elle disait, ouf, tu sais, tu verras bien. Tout était mis en doute quand je disais que j'aimais les langues. Elle me disait, bon, écoute, hein, débrouille-toi déjà, essaye de faire déjà moins de fautes d'orthographe en français, puis on verra. Tout le temps comme ça. Tout ce qui m'éloignait d'elle, était ignoré. C'est pas que c'était dévalué, c'est que c'était... Ça n'avait pas l'air... C'était comme si elle le voyait pas, comme si ça n'existait pas. Si ça n'existait pas. J'ai quand même dit pendant des années sur ses conseils que mon père était mort, mais on va pas s'intéresser à ça, parce que le plus important, c'est pas ça. C'est l'écriture. C'est vraiment l'écriture. Elle a pas eu dans ses bras un écrivain. Ce bébé n'était pas un écrivain. Et tous les signes qu'elle aurait pu avoir, qui lui ont été donnés, que cet enfant était un écrivain, et que donc, que cet enfant n'était pas son cadeau. Cet enfant n'était pas son cadeau. Que j'étais une autre. Justement, que je est un autre. J'étais une autre. J'étais pas ma mère quand Rimbaud nous dit « je est un autre ». Rimbaud dit à sa mère « maman, je suis un autre ». C'est ça qui dit Rimbaud. C'est ça et c'est pas autre chose. Et quand toute la société me dit que quand moi j'écris « je », que « je », c'est moi, alors que moi je dis non, je est un autre, ça veut dire que toute la société continue de me dire non, c'est pas vrai, je n'ai pas un autre, je c'est toi et toi c'est ta mère. Et donc toute la société continue de me pousser dans l'inceste et d'y rester elle-même. Et c'est tout ce qu'ils font. Et l'écriture elle veut pas ça, et elle va contre ça, et elle ira toujours et j'irai avec elle, et c'est tout.
C'était À Voix Nue. Laurent Goumard s'entretenait avec Christine Angot. Prise de son, Frédéric Changenet. Réalisation, Vivienne Noël.